Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice, et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Juliette. Bonjour Juliette.
Bonjour Sarah.
Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices ?
Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 27 ans, donc je suis orthophoniste à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'exerce dans le service de neurologie spécialisé dans les maladies du motoneurone, de la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens. À côté de mon exercice professionnel, je suis aussi musicienne. Je joue de la harpe. Je chante dans un chœur qui s'appelle le chœur Microcosmos, dirigé par Loïc Pierre. Un chœur qui est basé à Vierzon. Donc, un week-end sur deux, je pars en répétition tout un week-end pour mettre en place un programme. Souvent un programme de concert parce qu'on est amené à se produire plusieurs fois par an dans le cadre du festival ou d'invitations en tout cas. Je vis avec Tristan, mon conjoint, qui est aussi musicien et qui fait aussi partie du même cœur. Donc on partage cette même passion. Et cette même passion m'a conduite à avoir envie de créer un cœur pour les patients que je rencontre, et notamment les patients atteints de la maladie de Parkinson qui ont des problématiques d'ordre vocal, en tout cas, entre autres, avec une voix qui est souvent hypophone, monotone, avec un manque, manque d'intensité, de modulation de la hauteur, ce qui les contraint quand même beaucoup. Dans leur quotidien, qui les restreint dans leurs activités, qui quand même impacte beaucoup leur vie par cet outil de la voix qui est indispensable. Et donc, dans le cadre de l'ETP Parkinson qui est mis en place à l'hôpital, nous avons, donc avec l'aide aussi de toute une équipe logistique qui a vraiment été très, très proactive dans ce projet, mis en place donc la chorale qui s'appelle Parkichamp. Voilà.
Ok, super, merci pour ta présentation. Juste pour préciser, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, ETP, c'est bien éducation thérapeutique du patient.
Oui, tout à fait.
Ok.
Tout à fait. On est plusieurs intervenants d'ailleurs. J'ai aussi ma collègue orthophoniste qui, elle, présente la méthode LSVT aussi. On est vraiment... il y a toute une éducation aussi médicamenteuse. C'est axé sur plein de choses. Il y a aussi d'autres activités de médiation artistique. Donc, l'équivalent de Parkichamp, mais en danse. Donc, Parkidance aussi.
Génial. Donc, ouais, un bon programme alors pour ce programme de TP, justement.
Oui. Oui, okay. Oui.
Super. Et donc, on va pouvoir explorer un petit peu plus ton parcours et les différentes facettes. Si on commence par le début, comment toi, tu es arrivée en orthophonie ?
Je dirais par le biais de la musique. Parce que je fais de la musique, des instruments, en tout cas depuis petite, du piano et du violon. Et j'avais fait du violon en orchestre. Donc j'avais déjà été portée par une expérience collective de la pratique de la musique que j'avais trouvé j'avais trouvé que c'était une expérience extraordinaire et puis quand j'ai passé mon bac, j'étais en option musique et puis les circonstances ont fait que j'ai dû m'intéresser, en tout cas, à la voix, au chant, ce que j'avais jamais fait auparavant. Et j'ai trouvé que c'était un instrument finalement auquel j'avais jamais pensé, mais qui était encore plus puissant que ce que j'avais pu expérimenter auparavant, ce côté être instrument et instrumentiste en même temps.
Oui.
Ça m'a vraiment fait percevoir des perspectives impressionnantes. Et donc j'ai eu envie d'investir cet instrument par le biais de la pratique collective, donc en chœur. Vraiment porté
D'accord.
par l'envie de chanter en chœur. Et parallèlement à ça, j'avais envie de faire un métier qui était tourné vers l'autre, qui était vraiment dans le soin. Et finalement, l'orthophonie, c'est révélé un petit peu être, en tout cas, le métier qui était vraiment
À ce
au
carrefour.
carrefour de ces deux souhaits, en tout cas.
Ok. Et alors, quand tu as commencé tes études d'orthophonie, est-ce que tu avais l'impression de retrouver justement ce que tu étais venu chercher, donc la voix?
Alors, j'ai dû attendre un petit peu parce que ça vient pas tout de suite dans le cursus. J'ai dû être un peu patiente, mais en même temps, j'ai pas été déçue parce que l'orthophonie, c'est aussi un champ des possibles immense et c'est super en fait de se dire que on peut venir finalement pour un domaine de prédilection et puis finalement découvrir d'autres qui finalement nous intéresse énormément aussi, qu'on peut investir, qu'on peut découvrir aussi par le biais des stages. Donc j'ai adoré mes études, j'ai adoré il y a eu des moments bien sûr où j'aimais moins, mais des moments de partiel, etc. Mais globalement j'ai trouvé que avoir ce champ très très large, c'était quand même quelque chose de très enrichissant. Et la voix a fini par arriver de façon très complète. En plus, moi j'étais au centre de formation de Strasbourg. Donc on avait des cours dispensés par une phoniatre. On avait aussi quelques orthophonistes qui étaient vraiment spécialisés dans leur pratique. Moi j'ai pu avoir aussi une maître de stage qui faisait quasiment que de la voix, qui m'a fait découvrir l'ostéovox. C'est grâce à elle que j'ai commencé aussi à me former, je crois, en quatrième année d'études, tout en pouvant pratiquer en stage au fur et à mesure des sessions. Donc ça, c'était aussi une grande chance. Donc je dirais que globalement, mes études m'ont confortée dans mon choix de départ.
Ouais, c'est sûr. Et quand tu as commencé à travailler, est-ce que pour toi, c'était une évidence de te tourner vers la voix exclusivement, ou est-ce que tu avais un petit peu envie de toucher à tout?
J'étais plutôt dans l'optique d'essayer au maximum de entre guillemets, hein, me spécialiser, ou en tout cas, être plutôt dans privilégier des pathologies vocales, et aussi tout ce qui touchait à la déglutition dysfonctionnelle, aux problématiques de bruxisme aussi, en fait un petit peu tout ce que Ostéovox m'a permis d'entrevoir. Enfin voilà, tu sais bien.
Pour les
Mais...
auditeurs auditrices, on s'est rencontrés à la formation Ostéovox avec Juliette.
Voilà, et c'est vrai que je crois que tu peux en témoigner aussi. Ostéovox nous ouvre finalement aussi toute une autre façon de penser toutes ces problématiques-là. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc j'étais plutôt axée sur des patients qui venaient pour ces raisons-là. Et puis j'avais aussi, alors de façon un peu, enfin, c'était une proportion moindre, mais j'avais quelques bouts de chou aussi, parce que j'aimais bien ça venait aussi un petit peu me faire pratiquer dans ma jeune expérience d'autres pathologies.
Donc, je crois que tu as commencé en libéral après tes études. Comment ça s'est passé la création de ton cabinet en sortant des études? Parce que tu as commencé directement.
Oui, tout à fait. Bah, je pensais que libéral rimait avec liberté. Alors, je me suis dit, ça doit être voilà le mode d'exercice en tout cas qui voilà qui devrait le mieux me convenir justement pour avoir ce choix de entre guillemets voilà toujours de la spécialisation. Puis j'étais voilà en sortant des études, j'étais toute joyeuse, toute pleine d'entrain. La création de mon activité. Voilà. C'est vrai que je me suis tournée vers quelque chose où je pouvais être en tout cas le plus indépendante possible. C'est vrai que c'était, ça a été un choix. Alors, choix aujourd'hui que je ne regrette pas parce que ça m'a permis de me confronter à la vraie vie et à la réalité aussi. Alors là, pour le coup, que je sous-estimais beaucoup administrative. Et c'est vrai que voilà, je dois quand même reconnaître que j'ai rencontré de nombreuses déboires de ce côté-là et qui, voilà, je pense aujourd'hui qu'avec le recul, il m'aurait manqué effectivement le soutien déjà d'une titulaire, de quelqu'un qui était passé par là. Voilà. C'est vrai que ça, alors je me suis beaucoup référée à l'ouvrage que tu as fait pour justement pour les néo-diplômés, qui est vraiment qui est une mine d'or, hein, qui m'a sauvée sur bien des points. Mais c'est vrai que voilà, sur des fois il y a des imprévus, des choses qui arrivent, même d'un point de vue enfin, de gestion avec les patients, d'un point de vue voilà. Rendez-vous, comment on gère aussi les absences, enfin, tout ça. Et finalement, bon, j'ai un peu dû le faire à ma sauce. Et c'est vrai que j'étais pas toujours très sereine avec ça. Donc, voilà, je dirais que globalement, ça reste une bonne expérience, hein, bien sûr, très enrichissante avec des patients super, hein, avec qui vraiment on a pu avoir vraiment une relation thérapeutique très sympa. Mais voilà, c'est vrai que le côté chef d'entreprise, voilà, être tout seul à la tête de cette activité, moi j'ai trouvé ça enfin, assez difficile, un peu lourd aussi à porter voilà, tout seul.
Oui, et puis c'était peut-être différent de ce que tu t'étais imaginé finalement.
Oui, j'imaginais pas que c'était à ce point-là. Je voilà, tous les maîtres de stage, voilà. Expliquer, il me disait, ah bah, tu verras quand tu seras en activité, tu devras faire ça. Et bon, voilà, je l'avais dans un coin de ma tête, mais c'est pas une source d'inquiétude plus que
Oui.
ça. Mais une fois devant le fait accompli, j'ai compris. J'ai compris le message.
Et justement, je me demandais, est-ce que tu as réussi à mettre le doigt dessus très vite sur justement ce mode d'activité qui ne te convenait pas? Ou est-ce que, en fait, tu vois, ça a un petit peu traîné, 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 et jusqu'à ce que tu te dises, non, en fait, ça ne me convient pas?
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu le fait, effectivement. Je m'en suis un peu rendu compte dès le départ que bon, ça me faisait. Puis je me suis dit, mais peut-être qu'au fur et à mesure, ça va aller mieux, ça va moins me peser. Et en fait, je dirais que ça a plutôt été l'effet contraire. Ça s'est mis à me peser davantage, davantage, davantage. Et le coup de grâce, c'est vraiment quand en fait, j'ai quitté Strasbourg pour suivre mon conjoint à Paris. Et finalement, bon, comme c'était le seul mode d'activité que j'avais à ce moment-là connu, je me suis dit, bah, bon, j'ai monté un cabinet à Strasbourg. Bon, je devrais pouvoir monter un cabinet à Paris. De la même façon, en
Oui.
termes de temporalité, on était à peu près, quand je suis installée à Paris, un an après mon installation à Strasbourg. Et
D'accord.
idem avec le recul, je me suis dit, mais c'est complètement fou d'avoir envisagé de monter deux cabinets en un an. Enfin, maintenant, je me rends
C'est
compte.
une
Et
charge énorme de travail, oui.
voilà, ça a vraiment été très dur, parce qu'il a fallu que je gère en même temps la session d'activité à Strasbourg et monter en même temps ma patientèle à Paris. Voilà, il y a vraiment le mois de février 2023 a été, je crois, l'un des pires de ma vie. Et en fait, voilà, j'ai rencontré là vraiment beaucoup d'obstacles avec l'administration, vraiment avec un grand A, puisque pourtant j'avais bien fait les démarches dans le temps, mais Paris étant voilà, une ville très dense avec effectivement beaucoup de praticiens, les délais ont été multipliés par deux ou trois par rapport à ce que j'avais pu connaître à Strasbourg, ce qui fait que j'ai démarré mon activité au mois de mars et que je n'avais ni CPS, ni feuille de soins. Donc, j'ai travaillé un mois sans pouvoir facturer aucun de mes bilans. Ou voilà. Et ça a été vraiment très, très dur de se dire, mais j'ai fait toutes les démarches, je commence à travailler et je ne suis pas rémunérée. Et finalement, bon, bah, personne peut répondre à cette détresse malgré mes relances. J'avais du personnel au téléphone. Voilà, je disais, mais je suis prête à venir les chercher, les feuilles de soins, à les remplir. C'est pas un problème, même si elles sont pas déjà, voilà, pré-remplies, etc. Et on me disait, non, il faut que vous attendiez, madame. Les feuilles de soins sont arrivées au mois de mai, donc 2 mois après, on n'avait plus d'activité. Voilà. M'a conduite, je crois qu'on peut le dire, hein, à un trop-plein, un burn-out.
Oui.
Et donc, j'ai cessé mon activité, en fait, voilà, au bout de 2 mois.
Oui. Est-ce que là, pour le burn-out, justement, on a enregistré un épisode qui sort le 20 février. Donc là, c'est pas encore sorti quand on enregistre ensemble. Mais c'est un sujet que je trouve hyper important à aborder. Et on en entend un petit peu plus parler, mais sans avoir parfois les témoignages. Et je trouve ça intéressant de bah déjà pouvoir se dire que quand on traverse ça, on n'est pas tout seul ou toute seule. Et que ça arrive à beaucoup, qu'il n'y a pas de honte et que ce n'est pas un échec non plus. Toi, à ce moment-là, pour le burn-out, est-ce que là aussi tu t'en rends compte? Est-ce que c'est ton entourage qui te le fait remarquer? Comment ça s'est passé?
Bah en tout cas, déjà, j'avais beaucoup de mal à aller travailler le matin. C'était extrêmement dur. J'avais la boule au ventre, ce qui n'était quand même jamais arrivé. Et puis, effectivement, bon, j'étais dans une période où je venais de déménager. Donc, c'était aussi, tout était en construction finalement dans ma vie. Et le cabinet, c'était supposé être quand même quelque chose. Voilà, une petite bulle de voilà, où en tout cas je devais bien me sentir, et puis bien me sentir pour qu'aussi mes patients se sentent bien. Et c'était pas le cas, et je culpabilisais beaucoup parce que je me disais, je suis pas bien, donc j'ai peur de mal faire mon travail. Vraiment, c'était très très douloureux. Et c'est vrai que voilà, émotionnellement, j'étais complètement, voilà, j'étais très 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 mal. Donc oui, mon entourage, bien sûr, mon conjoint s'est bien rendu compte que là, voilà, il y avait quelque chose à faire. Et finalement, je suis allée voir, voilà, je suis allée voir mon médecin traitant. Je lui ai expliqué, et voilà, il m'a dit, mais pour prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi. Donc tout de suite, elle m'a pas une injonction, mais en tout cas, voilà, elle m'a dit, il faut absolument vous arrêter. Voilà, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Mais c'est vrai que de prime abord, j'ai vécu ça comme un échec.
Oui.
En plus, avec, ben on le sait, hein, une pression au niveau des demandes qui ne cesse d'affluer, d'affluer, d'affluer. On se dit, mince, déjà, voilà, j'arrive même pas, en temps normal, en travaillant, à répondre à toutes les demandes. En plus de ça, là, je suis arrêtée, donc. Enfin voilà, moi je voyais ça, et finalement je voyais que même en étant arrêtée, j'arrivais pas à être complètement détachée de ma pratique. Alors probablement que je me laissais aussi envahir parce que j'avais pas encore réussi à bien mettre cette distance, à bien séparer les choses. Mais en tout cas, voilà, ça m'a poursuivi un certain temps. Et finalement, du moment où j'ai arrêté, où j'ai été mise en arrêt, je n'ai pas repris, en fait. Je n'ai jamais repris le cabinet. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, j'ai quand même envie d'être orthophoniste. C'est vraiment pas un problème de vocation. Mais là, en tout cas, à ce moment-là de ma vie, c'est un problème de cadre de pratique.
Oui.
Donc, bon, peut-être que là, j'ai besoin de me sentir entourée, d'être dans une équipe. de sentir aussi que j'ai pas cette pression de. Parce que ça aussi, c'était quelque chose qui me faisait pas mal en libéral d'avoir un temps de séance imposé. Et notamment, je pratiquais donc beaucoup ostéobox. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des collègues qui arrivent. En tout cas, moi, je n'arrivais pas à faire ostéobox correctement, en tout cas, en 30 minutes. Voilà, c'était quand même très compliqué. Mais la convention, voilà, ne prévoit pas effectivement qu'on puisse être flexible sur le temps. Et ça, c'était extrêmement frustrant pour moi et pour les patients, parce que je reste convaincue que en leur offrant un temps de séance plus important, on participe grandement au fait que voilà, en tout cas, ils se rétablissent plus mieux et certainement plus rapidement. Donc voilà. Donc ça aussi, je savais que salariat. Alors, j'imagine que ça peut dépendre aussi des services, des équipes, mais en tout cas, voilà, dans l'exercice salarial que j'ai actuellement, on est privilégié vraiment le temps avec le patient et voilà, je dirais que c'est inestimable par rapport en tout cas à ce qui était possible en libéral.
Oui, et effectivement, tu fais bien de le souligner, ça doit dépendre aussi des salariats. Et ouais, c'est important de ne pas garder à l'esprit que parce qu'on va en salariat, on a forcément le temps.
Non, bien sûr.
Mais par contre, c'est chouette, quoi, toi, que tu aies trouvé quelque chose comme ça. Moi, je me souviens d'un salariat où on devait voir 11 patients en une matinée. Autant dire que c'est pire qu'en libéral, au final, au niveau du temps.
Complètement. Non, complètement. Effectivement, ne pas généraliser malheureusement, mais c'est vrai que voilà.
Mais du coup, de se renseigner, enfin, si c'est un souhait d'avoir plus de temps de séance, de se renseigner même sur les types de
Bien
salariat,
sûr, bien
comment
sûr,
ça fonctionne.
bien sûr.
Et du coup, toi, comment tu as trouvé ce salariat alors?
Alors, il se trouve que au moment où j'allais déménager à Paris et que voilà, je mettais en place en tout cas la constitution de mon cabinet, je m'étais aussi un peu questionnée sur un exercice mixte. Voilà, j'explorais un peu et
Oui.
j'avais trouvé effectivement l'annonce pour le poste que j'occupe aujourd'hui, mais qui était annoncé quand même pour un poste, je crois, à 70%. Voilà, j'avais réfléchi. Il me semblait que la balance n'était pas très, très, malheureusement, ça n'allait pas être très possible d'un point de vue bah, financier, des charges libérales voilà, qui avaient continué à tomber, etc. Et puis, bah, voilà, le salaire du salariat qui est ce qu'il est. Donc j'avais voilà, j'avais un peu abandonné. Et puis, voilà, quand j'étais après mon burn-out, dans une perspective de changer de mode d'exercice, je suis allée voir si l'annonce était toujours là. Et l'annonce était toujours là, donc j'ai postulé. Et j'ai eu la chance, en fait, d'être reçue en entretien par ma collègue, voilà, Nathalie Lévesque, qui a beaucoup, beaucoup publié, notamment sur la dysarthrie, qui est formatrice. Qui dispense des cours voilà, en centre de formation d'orthophonie, qui travaille dans le service depuis 20 ans, qui m'a reçue et donc qui m'a voilà, très, très bien voilà, qui m'a présenté vraiment très bien les choses telles qu'elles sont. Et notamment, voilà, j'ai pu avoir cette certitude que voilà, vraiment on pouvait privilégier ce temps de qualité avec les patients. Alors, certes, ce sont des pathologies aussi très lourdes qu'on rencontre moins fréquemment en libéral. Je pense à la maladie de Charcot, la SLA. Donc c'est vrai que on passe facilement bien 1 heure avec un patient SLA parce que on reçoit aussi ses aidants, voilà, son entourage. C'est sûr que voilà, on peut pas avoir du tout le rythme qu'on peut avoir en libéral ou en tout cas peut-être en structure avec d'autres pathologies. Là, de toute façon, la pathologie implique qu'on y passe un peu de temps. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vrai que ça a été un argument très 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 favorable et aussi le fait qu'on soit une équipe pluridisciplinaire où voilà, il y a neurologue, orthophoniste, psychologue, diététicienne, infirmière, bien sûr, assistante sociale, des membres du réseau aussi, SLA d'Île-de-France. Voilà, on a effectivement, j'espère que j'oublie personne, je crois pas. ergothérapeute, pardon, aussi. Voilà, on a voilà, toute une équipe et l'équipe est super. Vraiment, on s'entend très très bien. On a vraiment une très très bonne cohésion et j'ai appris beaucoup beaucoup des
Oui.
métiers autour aussi que finalement que je connaissais pas quand j'étais libérale parce que c'est plus difficile d'aller à la rencontre aussi
Complètement.
des autres professionnels qui sont amenés à travailler avec nos patients. Et là, du coup, tout le monde est sur place. Donc, on va volontiers voir aussi les évaluations des autres praticiens pour voir un petit peu. Les autres praticiens viennent aussi. Et c'est chouette parce qu'il y a vraiment une demande, même des médecins, des internes, de venir voir nos évaluations orthophoniques pour aussi voilà, se former un petit peu cliniquement aux choses. Et donc c'est super en fait de sentir qu'il y a vraiment cette transversalité des pratiques.
Et ça fait combien de temps alors que tu es dans ce salariat?
Depuis le mois de septembre, donc le mois de septembre 2023.
Donc là, ça fait 6 mois à peu près?
Oui, un petit peu
Un
moins.
petit
C'est
peu
vrai que
moins.
je suis un petit peu, voilà, je suis encore un peu novice
Oui.
dans l'équipe. Je suis pas la dernière arrivée, encore quelqu'un qui arrive après moi, mais voilà, ouais. C'est bien aussi, il y a pas mal de personnes, enfin, la plupart dans l'équipe sont là depuis aussi plusieurs années, donc dans nos épaules, voilà, quand on a un doute ou voilà, une question même sur le fonctionnement du service. Donc c'est super.
Ok, et donc toi, ça ne fait pas très longtemps que tu es là, mais tu as déjà réussi à mettre en place un groupe, donc par qui chant. Est-ce que tu veux bien nous en dire déjà plus sur ce groupe et comment tu as pu mettre ça en place?
Alors oui, finalement c'était pas du tout. Alors c'était quelque chose la chorale que je réfléchissais même quand j'étais en libéral parce que j'avais donc des patients, beaucoup de patients qui venaient pour des problématiques de voix et qui me disaient bah on aimerait bien chanter mais on n'ose pas, on a peur que voilà notre voix suive pas dans une chorale ordinaire. Donc finalement je sentais qu'il y avait plein de enfin, quand même, beaucoup de patients qui avaient envie de chanter, mais qui n'osaient pas à cause de leurs problématiques vocales. Donc, je me disais, mince, ça serait chouette de pouvoir quand même leur offrir un cadre où ils puissent mettre ça en pratique, parce qu'en plus, quelque part, le chant est, enfin, en tout cas, à mon sens, est aussi thérapeutique dans la gestion vocale, voilà, la mise en route. De la respiration, voilà, de la résonance. Enfin, il y a vraiment plein, plein de choses qui s'investissent de façon beaucoup plus flagrante en voix chantée qu'en voix parlée. Voilà, donc ça germait déjà un petit peu, mais je savais pas trop comment mettre ça en place. Les locaux aussi, enfin voilà, il faut avoir quand même un peu d'espace pour pouvoir proposer ça. Donc, je dirais que c'était plutôt la problématique logistique voilà, qui me contraignait un peu. Et quand j'ai commencé donc à la Pitié-Salpêtrière, voilà, nous notre nos postes respectifs à une de mes collègues sont prioritairement centrés sur les maladies du motoneurone, mais on intervient aussi un peu plus largement donc pour tout ce qui est Parkinson et syndrome parkinsonien. Et ma collègue était en relation avec la coordinatrice du programme donc d'éducation thérapeutique des patients parkinsoniens. Et on a participé à un de ces ateliers au mois de septembre, qui était vraiment sur bien l'explication de la mise en place des traitements, comment ça agissait, la différence. C'était super intéressant. C'était une des neurologues du service qui présentait ça. Et du coup, à ce moment-là, la coordinatrice m'a voilà, comme j'étais nouvelle, m'a un petit peu présentée et puis m'a dit, bah, il y a un atelier thérapeutique de danse, par qui danse, si tu veux venir, voilà, tu peux venir. Donc, j'étais ravie, je disais, bah oui, bien sûr. Tout
Merci.
ce qui est médiation artistique, vraiment, je trouve ça super. Donc, j'y suis allée voilà, j'ai vraiment été époustouflée de voir à quel point ça faisait du bien aux patients et à quel point aussi ils étaient motivés, ils venaient toutes les semaines. Parfois certains de loin hein, et vraiment c'était quelque chose de voilà de très très important pour eux finalement au même titre que qu'une médication quoi en fait c'est une forme vraiment de traitement. Et puis, voilà, je lui dis, mais est-ce qu'il existe la même chose, finalement, parce que c'est des patients qui ont des problématiques vocales, est-ce qu'il existe la même chose avec le chant, avec la voix? Et elle m'a dit, bah non, on aimerait bien, enfin, j'aimerais bien pouvoir mettre ça aussi en place. Et donc, je lui dis, bah écoute, voilà, il se trouve que, alors, je fais du chant, je ne suis pas du tout chef de chœur, voilà, je vais certainement un petit peu tâtonner au début,
Oui.
mais en tout cas, je serais bien partante pour mettre en place en tout cas un atelier vocal, enfin voir un peu quelle forme ça peut prendre. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des patients qui seraient intéressés? Elle m'a dit, bah écoute, je vais voir. Et alors, en une semaine, elle m'a fait recruter 15 patients,
15.
trouver
Ah
une
oui, ça.
salle et tout. Ouais, elle a été hyper, hyper, hyper efficace. Moi, je pensais
Oui.
pas du tout. Pour moi, voilà, ça allait être,
Plus
bah,
tard.
plus tard, dans quelques mois, je ne m'attendais pas à ce que ce soit immédiat. Elle m'a dit, bon, bah, quand est-ce qu'on commence?
Ils sont là, ils t'attendent.
Voilà, c'était ça. Et donc, on a commencé juste après les vacances de la Toussaint. Ouais. Donc j'ai mon petit groupe de parquichants, voilà, à peu près une quinzaine de participants.
Ouais.
Et donc, voilà, on fait ça tous les mercredis après-midi. Et il se trouve que le mercredi matin, ils ont l'atelier de danse. Donc, en fait, ils enchaînent quasiment la danse avec le chant. Et ils sont super, super motivés. Voilà.
Génial.
Donc, d'avoir vu, c'est vrai qu'au début, bon, du coup, je me forme un peu sur le tas aussi à la direction du cœur. Je les accompagne, je chante en même temps. Je suis un peu multitâche. Mais en tout cas, ils m'ont vraiment. D'avoir vu déjà leur plaisir à venir. Et puis, c'est vrai que quand voilà, les personnes qui ont la maladie de Parkinson sont souvent hypomimiques aussi. Et quand ils arrivent, bon, ils ont une petite voix, ils sont un peu hypomimiques. Donc, on essaye de faire des gestes un peu plus grands, même au niveau du geste vocal. Et d'ailleurs, ils ne sont pas du tout hypophones quand ils chantent. Donc, ils entendent aussi leur voix. Voilà, ils réinvestissent leur voix et c'est magnifique. Et puis, ils se lancent parce qu'ils sont en groupe. Donc, voilà, il y a vraiment une très, très belle synergie dans ce groupe.
Ok, et comment toi tu gères ta posture de nouvelle arrivée dans le service, orthophoniste en face de patient et chef de cœur? Comment du coup ça s'articule? Est-ce que tu vois vraiment une différence avec la chorale que tu fais toi à l'extérieur ou avec le soin que tu leur proposes? Est-ce que c'est un mix des deux?
Je dois dire que oui, quand même, la pratique du cœur, donc du côté personnel, a quand même joué un rôle important parce que dans le cœur, le cœur microcosmos dont je fais partie, notre chef de cœur parle souvent enfin, aime bien parler de l'idée de laboratoire d'art choral dans lequel on invite d'ailleurs plusieurs arts. Bon, bien sûr, la musique, mais aussi le théâtre, le cinéma, la danse, voilà, il y a plein de choses qui viennent s'articuler. On essaye, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Voilà, mais on est toujours dans une espèce de recherche, voilà, de questionnement, rien n'est figé. Et finalement, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé dans mon parquet-chant parce que. Bah c'est vrai que j'avais en face de moi pour la plupart des personnes qui n'étaient pas musiciennes donc qui voilà qu'il fallait réussir à finalement à pouvoir ne pas exclure en fait par rapport aussi aux personnes qui avaient déjà fait du chant, il y en a qui ont fait du chant lyrique, voilà, qui viennent aussi voilà, pareil, être un peu dans cette idée de laboratoire la première chose que je leur ai proposé de chanter parce que ça m'a parlé et je me suis dit, bon, à mon sens, je crois que ça pourrait être quelque chose qui aurait des chances de leur parler aussi. C'est Bella Ciao. Voilà, dont j'ai enregistré du coup un extrait parce que c'est devenu un petit peu notre rituel maintenant. Ça a été vraiment le premier travail de chant qu'on ait fait. Et maintenant, on déchiffre plein d'autres choses parce que notre projet, on aimerait bien, c'est de donner un petit concert à la fin de l'année
Génial.
dans la très belle chapelle Saint-Louis de la Petite-Salpêtrière. Voilà. Donc ça aussi, je dirais que le cœur microcosmos m'a aussi beaucoup voilà, donné cette idée de concevoir ce que j'avais jamais fait auparavant, enfin essayer en tout cas de concevoir une arche pour un programme musical aussi en fonction de leurs souhaits. Donc c'est vrai que voilà, par exemple il y a la Belle de Cadix, il y a bon bien sûr Bella Ciao, on ne pourra pas faire un pas. Mais aussi voilà des airs d'opéra, l'air du Toréador, voilà Carmen, inviter des choses qui un peu voilà un peu intergénérationnelles finalement, et que qu'on a avec mon conjoint qu'on a transposé pour que ça puisse être bien adapté à leur tessiture, que ça leur demande pas voilà de forçage, parce que bah, c'est quand même des voix qui restent un petit peu fragile, donc voilà, l'idée c'est pas aussi de les mettre en difficulté, mais voilà. Et là, on arrive à chanter à deux voix, donc je suis très contente, ils sont très
Wow.
contents aussi, et voilà, et c'est très chouette.
Ok, c'est super. On met un extrait juste ici de ta chorale. Ok, donc merci beaucoup pour cet extrait. C'est chouette de pouvoir les entendre. J'imagine que tu es très fière d'eux.
Ah oui, ouais, ils sont, ouais, je leur dis d'ailleurs souvent. Mais oui, je trouve qu'ils, ouais, je trouve que c'est très puissant ce qu'ils arrivent à dégager, donc
Ouais,
je
génial.
suis fière d'eux.
Eh ben ouais, merci beaucoup pour ce partage sur le groupe Par qui chante. Et moi, j'aurais voulu te poser des questions un petit peu sur du coup ton exercice semi-professionnel. C'est comme ça qu'on dit?
Alors, c'est vrai que le cœur est... Alors, bon, moi, je me considère pas comme semi-professionnelle parce que, en tout cas, j'ai pas fait d'études de chant assez poussées pour dire que j'aurais un niveau, voilà, ce niveau-là, en tout cas. Mais le chœur dans lequel je suis, effectivement, voilà, inclut des personnes comme moi qui font vraiment ça, voilà, pour leur plaisir, pour leur loisir, et des personnes qui sont en voie de professionnalisation. Donc c'est un cœur, aussi un cœur qui a cette vocation de cœur école, de formation, et c'est vrai qu'on se voit à un rythme assez soutenu, parce que c'est un week-end entier, voilà, toutes les 2 semaines. Parfois ça s'enchaîne aussi quand il y a des concerts, voilà, on a effectivement donc un rythme, oui, qui pourrait être presque un rythme professionnel. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cette qualification, voilà, semi-professionnelle. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'est une évasion, et c'est aussi, voilà, c'est quelque chose qui nourrit aussi beaucoup ma pratique orthophonique, parce que ça me permet aussi de moi être encore aussi en construction. Je suis en pleine construction aussi moi-même de ma propre voix. En perpétuel apprentissage, et du coup c'est aussi voilà, c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup quand j'essaye de transmettre ça dans la construction aussi du geste vocal de mes patients, de mes parties chanteurs. Et voilà, c'est très touchant de pouvoir assurer cette continuité-là.
C'est génial. Et justement, comment tu dirais que ça a contribué à ton envie de mettre un petit peu plus d'art dans ton exercice de l'orthophonie? Est-ce que c'est uniquement la pratique, uniquement entre guillemets, hein, uniquement la pratique en chœur? Est-ce que c'est d'autres activités artistiques qui te parlent aussi?
Alors c'est vrai que ça passe quand même beaucoup par le biais de la voix et du chant, j'avoue. Mais c'est vrai que, par exemple, pour les patients SLA, donc c'est plus compliqué d'envisager voilà, des pratiques en chœur, parce que c'est vrai que c'est une maladie qui évolue quand même rapidement. Voilà, donc c'est plus difficile à envisager sur du long terme, sur des projets comme, voilà, comme Parquet-Champs. Mais en tout cas, c'est vrai que je rencontre des patients qui me disaient, mais j'ai mis chanter avant et depuis que j'ai des difficultés d'élocution, je ne chante plus. Et des fois, voilà, j'essaie de leur dire, bah, vous avez quand même encore des possibilités vocales, vous avez encore, voilà, des possibilités de modulation. Alors, voilà, c'est peut-être pas votre voix d'avant, mais vous avez toujours une voix et j'essaye de, voilà, de leur permettre de continuer à pouvoir investir ça par le biais, voilà, du chant, en fait, aussi. Et c'est vrai que bah, des fois, ouais, des fois, il y a des situations très émouvantes où même les conjoints n'ont plus entendu, voilà, la personne bah, chanter ou utiliser sa voix comme ça depuis longtemps. Et finalement, de juste pouvoir se remettre en perspective, de pouvoir utiliser sa voix comme ça, bah, c'est vrai que c'est très, très fort. Donc, bon, je dirais que oui, artistiquement parlant, ça passe en tout cas quand même beaucoup par le chant, même en dehors de la pratique, du chant choral.
Qu'est-ce que tu conseillerais aux orthophonistes qui nous écoutent et qui auraient envie de mettre en place une chorale ou des activités artistiques?
Ah ben je les encouragerais à fond parce que ça reste toujours des modes d'expression super importants en fait pour les patients et en fait on n'a pas forcément besoin d'avoir des compétences voilà moi par exemple dans Parquet-Champs j'essaie de les accompagner au piano, mais mes notions pianistiques sont lointaines. Et franchement, je fais plein de pains à chaque fois. Et puis les patients, ils sont rigolos parce qu'ils, vraiment, des fois, ils sont un peu sans filtre. Et puis ils me disent, oui, ce serait bien quand même qu'on engage quelqu'un qui pourrait nous accompagner au
Oui.
piano. Donc voilà, c'est dire que bon, je suis pas du tout, voilà, irréprochable sur ce plan-là. Donc en fait, voilà, on peut aussi y aller avec voilà des notions très basiques, c'est pas un problème tant qu'on est voilà dans une je crois dans quelque chose qui fait plaisir aux patients, qui lui fait du bien voilà on peut y aller par le biais voilà par le biais de la musique par le biais aussi de la danse. Moi je les fais aussi un peu bouger. Je suis absolument nulle en danse voilà, mais bon il y a une espèce de un peu de voilà, de passer un cap, un peu de, voilà, se dire, bon, bah, c'est presque du théâtre, en fait, hein.
Oui.
Presque, voilà, on est dans une espèce de mise en scène, on peut surexagérer, mais voilà, il n'y a pas du tout de jugement à ce niveau-là, donc, je dirais, foncez, c'est
OK.
super.
Super, c'est inspirant, tu vois, ça donne des idées. Là, j'étais en train de réfléchir pendant que t'en parlais, notamment dans un EHPAD où j'interviens. Je me dis, il faut que je réfléchisse à ça.
Oui, ça peut être même, voilà, leur passer, voilà, leur faire chanter une chanson un peu que tout le monde connaît, les faire taper dans les mains, leur faire investir, voilà, différentes façons de créer des percussions sur le corps aussi, parce que c'est vrai que ça, souvent, voilà, quand il y a des maladies, on peut désinvestir assez facilement le corps et donc. Bah juste voilà, se rendre compte encore de ses possibilités, sentir les vibrations. Là, je pensais aussi pour Parquet-Champs, peut-être même pour des patients que je vois en hospice. Les voisins ne seront pas très contents, mais leur faire, voilà, leur faire souffler dans un gazon parce que
Ouais.
bah voilà, c'est pareil, c'est un jeu musical, mais qui a quand même des vertus. Donc, pourquoi pas, voilà, plein de choses comme ça.
Ok, merci beaucoup Juliette de nous avoir
Avec plaisir.
partagé tout ça.
Merci, Sarah,
On va arriver à la dernière question du podcast. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices?
toi. Bah, de dire que on a quand même un métier qui est super, qui est super intéressant, qui fait beaucoup beaucoup de bien, qui aide beaucoup de patients et qu'en fait bah, même si on rencontre Voilà des choses hein, qui nous démotivent. Hein, enfin, moi, la première, hein, j'ai
Oui.
été fortement démotivée à des moments. Voilà, penser qu'on a quand même, je crois, des perspectives qui nous permettent de rebondir sur, finalement, il n'y a pas une orthophonie, mais plein d'orthophonies différentes et que, voilà, on peut très bien voilà, construire un nouveau chapitre avec tout à fait autre chose et jusqu'à trouver ce qui nous correspond et se dire que bah, voilà, chaque orthophoniste est aussi différent donc, et c'est OK. Je crois en tout cas que ça peut s'envisager comme ça.
Et ouais, il y a tellement de façons d'exercer notre métier. Et là, le podcast aussi en témoigne avec toutes les personnes qu'on a reçues. Il y a toujours des choses différentes sur l'exercice et c'est super inspirant. Et c'est chouette de voir que justement, si quelque chose ne nous convient pas, c'est possible de faire autrement, tout en continuant à être orthophoniste si ce métier nous plaît encore.
Tout
Et ben, merci beaucoup, Juliette, pour
Ben,
ta
merci à
participation et ton
toi.
témoignage.
Merci à
On
toi, Sarah.
se dit à bientôt.
Oui, tout à fait.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à La Parole aux Orthophonistes.